chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur La Voix des Anges pour cet opus 31 consacré au compositeur Matthias Weckmann. Chers auditeurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un compositeur, Matthias Weckmann, peut-être un peu oublié de nos concerts en ce moment, et également à un facteur d'orgue un peu particulier, Antoine Herbuté. Vous avez déjà pu entendre quelques extraits d'œuvres jouées sur ces instruments, mais revenons dans un premier temps à la personnalité d'Antoine Herbuté, et cela à travers les recherches de Dominique Blanc, passionné de ce facteur d'orgue. Antoine Herbuté est né le 11 janvier 1798 à Rixheim, dans le Haut-Rhin. Fils d'un aubergiste originaire de Fesches-l'Église, il n'était probablement pas destiné à devenir facteur d'orgue. Il épouse en 1824 Marianne Chevillot de Markolsheim, dont le père, décédé en 1821, était également aubergiste. Herbuté s'installe ensuite à Markolsheim, où il succède à son beau-père. Selon les recherches du bien-nommé Pimeyer Siat, Herbuté commence sa carrière d'organier en 1829 avec la réparation de l'orgue d'Onenheim. En 1832, il construit son premier instrument à Schönau et c'est en 1842 qu'il réalise l'orgue de Steinbrunn-le-Bas, dont nous parlerons un peu plus tard. Durant sa carrière alsacienne, Herbuté construira une douzaine d'instruments et interviendra sur une trentaine d'autres. En raison d'importantes difficultés financières, notamment après la construction de l'orgue de Heiteren en 1846, il quitte l'Alsace. Nous retrouvons Herbuté à Riom, dans le Puy-de-Dôme, dès février 1853 pour la construction de l'orgue de l'église Saint-Genès à Thiers, à la demande de Barthélemy Rossich. Cet orgue fut longtemps attribué aux frères Calinet, d'ailleurs. En 1854, il réside à Vichy avec sa famille pendant quelques mois, avant de s'installer à Genève à la fin de l'année 1855. Pourquoi Genève ? Eh bien, Herbuté y avait peut-être des parents. En effet, la famille de sa grand-mère paternelle, Elisabeth Renaud, était originaire de cette ville. A-t-il appris qu'il n'y avait plus de facteur d'orgue à Genève ? En effet, jusqu'en 1850, Joseph Moser, le fils d'Aloïs Moser, assurait l'entretien des orgues de la ville. Mais il était malade et interrompit son activité d'organier en 1850, tout en restant organiste de la cathédrale, et ce jusqu'en 1865. Voici donc pour Herbuté une opportunité de poursuivre sa carrière après ses déboires alsaciens. Herbuté se met donc au travail, il assure l'entretien de certains orgues des temples de Genève sur mandat du consistoire, intervient également en Haute-Savoie sur plusieurs instruments, notamment sur l'orgue Calinet de Megève en 1871. Il construit plusieurs instruments en Suisse romande à Genève, lui est confié la construction de l'orgue de l'église Notre-Dame et de l'église anglaise. Mais comme ce fut le cas en Alsace, Herbuté se trouva confronté à une concurrence redoutable, notamment avec les premiers travaux de Merklin, et ce dès 1865. Sa dernière réalisation fut la construction d'un orgue de 8 jeux pour le temple de l'Auditoire à Genève en 1875. Herbuté était âgé alors de 77 ans. Que reste-t-il aujourd'hui des orgues d'Antoine Herbuté ? À l'exception des instruments alsaciens qui furent restaurés et lorsque cela fut possible rétablis dans leur composition d'origine, notamment celui de Steinbrunn-le-Bas, aucun de ces instruments n'a été conservé de son activité en Suisse, à l'exception d'un positif de 4 jeux construit en 1863 pour le pénitencier de Lausanne. Seule la restauration de l'orgue de Saint-Jean-d'Aulpe en Haute-Savoie, construit en 1870-1872, pourrait nous fournir encore quelques informations sur le style Herbuté. Celui-ci, en effet, n'ayant pratiquement pas subi d'intervention depuis sa construction en 1870. Antoine Herbuté meurt le 22 janvier 1880, après avoir formé le jeune Bernard Chanoun, venu travailler avec lui dès 1870 sur l'orgue de Saint-Jean-d'Aulpe et qui prendra sa succession. Vous venez d'entendre la toccata en mi mineur de Matthias Weckmann, interprétée à l'orgue Herbuté de Steinbrunn-le-Bas. Il s'agit en fait du deuxième disque de la collection Orgue d'Alsace, produit par le Festival Calinet et sorti en 2011. Alors revenons quelques instants sur cet orgue justement de Steinbrunn-le-Bas. Il s'agit d'un instrument relativement modeste, puisque d'un seul clavier et d'un petit pédalier d'à peine une octave. Cet instrument a été conçu au milieu du 19e siècle, la petite anecdote voulant que la commune de Steinbrunn-le-Bas souhaitait construire son orgue avant l'école et fut ainsi rappelée à l'ordre par la préfecture. Au départ, Hérisé avait été contacté pour la construction de cet instrument, Hérisé également facteur autodidacte du Haut-Rhin. Puis l'école construite lorsqu'il fallut refaire appel à un facteur d'orgue pour des raisons tout à fait inconnues, l'on fit appel à un autre facteur, cette fois-ci Antoine Herbuté, aubergiste et facteur d'orgue de métier, à Markolsheim. Ce dernier livra donc un instrument modeste qui traversa les décennies ainsi que le XXe siècle en subissant quelques modifications et quelques extensions. Il fut remis dans son état d'origine par la manufacture Jean-Christian Guerrier en 2009 avec également un essai de retour à une harmonisation d'origine. Vous l'entendez, en effet, cet instrument est relativement clair, à des sonorités presque labiales, pourrait-on dire, avec de très belles attaques. Dans le cadre de la toccata en mi mineur que vous avez entendue, nous sommes ici très proches du style improvisé qui était alors à la mode et de rigueur dans la sphère germanique au XVIIe siècle, ici joué sur le grand jeu avec la trompette notamment de cet instrument, les trompettes d'herbutées étant tout à fait caractéristiques dans leur sonorité. Si l'on va dans les deux autres instruments construits par notre organier de ce jour, à savoir Fessenheim et Eiteren, qui sont tous les deux plus grands. Fessenheim est un deux claviers pédaliers d'une vingtaine de jeux, et Eiteren, le plus grand orgue d'herbuté, trois claviers 37 jeux, est également en cours de restauration. Vous avez des trompettes de même timbre, à savoir très brillantes, presque canardantes, et sonnant bien sûr plus 18e siècle que 19e siècle. C'est ainsi que le programme de ce deuxième volume, donc deuxième disque de la collection Orgue d'Alsace, est un programme qui pourrait sembler archaïque, voire anachronique par rapport à la construction de l'orgue. On a un orgue de 1842 et un programme qui traite de Matthias Weckmann, donc 17e siècle, et également, vous l'entendrez dans la suite de l'émission, qui eh bien, voit l'interprétation d'œuvres comme Henri Dumont ou bien également Frescobaldi, des œuvres très anciennes. Et l'on se rend compte que sur cet instrument, un instrument au tempérament inégal, aux sonorités tout à fait historiques, eh bien ce sont ce type d'œuvres en effet qui peuvent bien sonner. Les œuvres contemporaines de la construction de l'orgue, elles, étant déjà peu nombreuses bien évidemment, mais également peu adaptées à cet instrument qui reste bien évidemment un instrument de village. Vous avez entendu une canzone en do majeur de Matthias Weckmann, interprétée à l'orgue de Steinbrunn-le-Bas par Cyril Palot. Il s'agit d'un disque Orgue d'Alsace, le deuxième volume de cette collection, qui tente de rendre hommage au patrimoine organistique alsacien en enregistrant pour la première fois des instruments marquants de notre territoire. Après le volume 1, qui était consacré à l'orgue d'Offwiller, au nord donc du Bas-Rhin, près de Niederbronn, le deuxième volume de cette cette collection Orgue d'Alsace est consacrée à l'instrument de Steinbrunn-le-Bas dans le Sundgau, donc au sud de Mulhouse, à l'autre extrémité de notre région. Il s'agit d'un disque Festival Calinet Édition sorti en 2011. Revenons donc à Matthias Weckmann et quelques informations biographiques par rapport à notre compositeur. Matthias Weckmann est né à Niederdorla, près de Mühlhausen, en Thuringe, région bien connue des mélomanes. Il est né en 1619, peut-être avant, nous n'avons pas de date précise quant à sa naissance, et il meurt à Hambourg, capitale de la Hanse de l'époque, le 24 février 1674. Un homme donc du XVIIe siècle qui vécut la guerre de 30 ans. Comme nombre de ses contemporains, Weckmann vit le jour dans un milieu musical et commença ses études auprès de son père, Jacob Weckmann, pasteur et organiste. En 1630, notre jeune musicien entre dans le chœur de la chapelle de la cour de Dresde, où Schütz se charge du reste de sa formation. L'on voit donc ici une filiation absolument merveilleuse qui est celle d'allant de Schütz à Weckmann, Schütz le plus grand compositeur de cette époque, en tout cas dans la sphère germanique. Donc notre jeune Weckmann se forme auprès de Schütz dans cette merveilleuse ville remplie de musique qu'est Dresde, et en 1633, sur les recommandations de ce dernier, il est envoyé à Hambourg pour suivre, aux frais de l'électeur de Saxe, et c'est très important, l'enseignement d'un autre compositeur immense de l'époque, à savoir Jacob Praetorius, auquel apparemment il aurait préféré celui de Scheidemann qui jouait à Sainte-Catherine pour son jeu plus chantant. Donc nous avons avec Mann qui va entre Scheidemann et Praetorius, mais qui est donc au cœur de finalement cette vie musicale organistique de l'Allemagne du Nord qui est alors à son apogée. Rappelons que nos compositeurs, donc Praetorius, était élève du grand Sweelinck. On entrevoit donc la filiation et le rapprochement de l'école du Nord et de celle du centre de l'Allemagne, à savoir donc entre Hambourg d'un côté et la Thuringe de l'autre. En 1637, après son voyage de formation, comme il était finalement de rigueur à l'époque, Weckmann rentre à Dresde. Il rentre à Dresde et il est nommé organiste de la chapelle de la cour. Mais en 1642, Schütz quitte Dresde. Il le quitte pour devenir directeur de la chapelle de la cour du Danemark après un bref séjour. Weckmann donc le rejoint et obtient comme à Dresde le poste d'organiste de la cour du Danemark qu'il occupera jusqu'en 1647, date à laquelle il rentre une nouvelle fois à Dresde pour retrouver son ancien poste. En 1655, la célèbre tribune de Sankt Jacobi de Hambourg était vacante. Weckmann postule et il emportera la place. Il restera à Hambourg jusqu'à sa mort en 1674 sur l'un des orgues les plus réputés d'Europe occidentale à cette époque. Ces années hambourgeoises seront pour Weckmann débordantes d'activités, a commencé par la création en 1660 d'un collegium musicum, à savoir d'un ensemble instrumental. Rappelons-nous que Bach a également créé son collegium musicum. Avec l'aide des musiciens de la ville, il donne des concerts hebdomadaires dans le réfectoire de Sankt Jakob. La plupart des œuvres de Weckmann datent donc de cette période. Sa vie durant, il fut en contact avec les autres musiciens de son temps. Tinder fut même garçon d'honneur au premier mariage de Weckmann, pour la petite anecdote. Demeuré tout à fait méconnu jusqu'au XIXe siècle, Weckmann a bénéficié depuis du désir très sensible qui s'est fait jour dans la recherche musicologique de mieux connaître l'époque, séparant Schütz, dont il fut l'élève préféré, de Bach. Vous avez pu entendre de Matthias Weckmann une seconde canzone. Après celle en Do majeur, voici donc celle en Ré majeur. Canzone de Matthias Weckmann, donc interprétée par Cyril Palot à l'orgue de Steinbrunn-le-Bas, orgue Antoine Herbuté. Il s'agit du deuxième volume de la collection de disques Orgue d'Alsace, une production Festival Calinet édition 2011. Dans cette seconde canzone, vous avez reconnu le jeu caractéristique de l'orgue de Steinbrunn, à savoir la trompette poète extrêmement brillante, dans une canzone tout à fait virtuose à l'écriture en imitation que vous avez reconnue, bien sûr, une canzone en trois parties, finalement exposition, développement, réexposition, quasi forme sonate, qui était employée déjà donc au XVIIe siècle par Matthias Weckmann, mais dans un style très virtuose et proche, bien évidemment, de l'école d'improvisation nord-allemande de cette époque. La place qu'occupe Matthias Weckmann dans le monde de l'orgue, justement, est tout à fait double. Il est tout d'abord, avec Reinken et Tinder, le lien entre l'enseignement de Sevelink, par le biais de ses élèves, et l'école nordique, dont le plus éminent représentant sera Buxtehude, juste après Weckmann, d'un point de vue chronologique. De même que notre Matthias Weckmann offre sur le plan de l'orgue un reflet instrumental de l'art de Schütz, dont nous n'avons malheureusement aucune composition pour l'instrument roi. Mais cette optique de filiation, certes juste et significative, ne doit en aucun cas conduire à une sous-estimation de l'art très individuel et particulier de Weckmann. Son œuvre n'est pas très abondante, certes, mais d'une qualité remarquable, exceptionnelle même, plus recherchée et dense si l'on la compare à celle de Tinder, sans parler de Reinken, dont nous ne possédons que de très rares témoignages. L'œuvre de Weckmann offre des compositions vocales à la manière de Schütz. 10 sonates pour cornet, violon, trombone, basson et basse continue. On ressent bien sûr les canzoni de l'école italienne dans ses œuvres. 5 suites pour le clavecin, proche de Froberger, et pour l'orgue, 8 pièces en style fugué, dont plusieurs canzoni que nous sommes en train d'écouter, 6 toccata, et également 9 chorales versets, certains versets pouvant être substitués ou divisés en variations, tels par exemple le 4e choral au Lux Beata Trinitas. Une œuvre d'orgue donc très virtuose, quelquefois considérée aujourd'hui comme peut-être trop délurée ou trop folle, car harmoniquement allant également très loin et jouant sur les tempéraments inégaux des instruments que pouvait jouer Weckmann. Et quand on pense à l'œuvre d'orgue de Weckmann et aux toccata et canzone que l'on écoute aujourd'hui, il faut bien sûr avoir à l'esprit son instrument, qui était le magnifique instrument de Sankt Jacobi de Hambourg. Vous avez pu entendre la quatrième œuvre de Weckmann que nous étudions aujourd'hui, à savoir une toccata, en prenant de celle en mi mineur qui a débuté l'émission, celle-ci était en ré mineur, et d'une écriture tout à fait différente. Elle était interprétée par Cyril Palot à l'orgue Antoine Herbuté de Steinbrunn le Bas, un disque Orgue d'Alsace, Festival Caliné Édition 2011. Justement, dans le cadre de cette toccata, vous entendez nettement deux parties différentes. Une partie quasi homophonique, s'il y avait eu un traitement vocal, avec un rythme harmonique assez lent, dans le style finalement des toccatas italiennes de Fresco Baldi que nous allons entendre de suite. Et puis une deuxième partie avec un tempo un peu plus allant et un ostinato rythmique à la basse qui entraîne la création d'une tension harmonique de plus en plus forte, avec ensuite la coda de cette toccata. Voici donc les quatre premières œuvres de Weckmann, issues de ses différentes compositions. Et comme pour mettre en pendant les toccatas de Weckmann à celles de ses prédécesseurs, n'oublions donc pas que Weckmann était élève de Soulink et le grand rival et contemporain de Soulink était Frescobaldi, écoutons maintenant deux toccatas de Frescobaldi qui pourraient être les pendants donc de la toccata en mi et en ré de Weckmann, à savoir une toccata plutôt lente, qui sera la toccata per l'elevazione, et une toccata beaucoup plus rapide dans ce style un peu improvisé de l'époque, qui sera une toccata avanti la messa. Pour Frescobaldi, dont on dira quelques mots après, rappelons juste les causalités des différences entre ces deux toccatas. La toccata avanti la messa était donc jouée en prélude à la messe et se devait d'être brillante pour accompagner la procession d'entrée. Alors que la toccata per l'elevazione, quant à elle, était jouée juste après l'élévation, moment le plus important de la messe et le plus recueilli, elle se devait donc naturellement d'être plus lente dans son tempo. La durée même de ces deux œuvres dépend également de la liturgie. La toccata avanti la messa est courte et doit être courte. La toccata per l'elevazione doit durer environ 1 minute 30, qui est la durée exacte entre la fin de l'élévation et le début des canons qui sont prononcés par le prêtre. Frescobaldi, en tant donc qu'organiste liturgique, a parfaitement compris la fonction de ces pièces et en a adapté la durée au cérémonial. Écoutons donc ces deux toccatas.
Thank you.
venez d'entendre un prélude, prélude du premier ton d'Henri Dumont, interprété par Cyril Palot à l'orgue Antoine Herbuté de Steinbrunn-le-Bas, un disque Orgue d'Alsace volume 2, Festival Calinet édition en 2011. Cette œuvre nous amène donc au troisième style du jour, à savoir le style français prélude, également se préludant à la messe, donc de notre compositeur franco-belge. Rappelons qu'Henri Dumont est donc bien issu de la Belgique, même si ce pays n'existait pas à l'époque, et qu'il arriva en France et devint bien organiste à la chapelle royale de Versailles de notre bon souverain Louis XIV, l'un des postes les plus prestigieux de l'époque. Il fut en fait nominé lors du premier concours permettant l'accès au poste de sous-maître de chapelle et organiste de la chapelle royale de Versailles. Quelques petits rappels par rapport à cette fonction et à Versailles. Louis XIV décide de transformer le château de son aïeul Louis XIII, qui n'était qu'un simple et modeste relais de chasse, mais tout en préservant le corps principal, comme pour maintenir une continuité et perpétuer la tradition. Dans ce cadre-là, il va progressivement organiser des fêtes au château et construire une chapelle, chose tout à fait obligatoire puisque le souverain assiste quotidiennement à sa messe. Sachez que Louis XIV n'aimait pas véritablement l'office divin, il s'y ennuyait d'ailleurs assez prodigieusement, mais il aimait beaucoup la musique. Rappelez-vous, Louis XIII comme Louis XIV sont des musiciens, sont des chanteurs, sont des danseurs, sont des chorégraphes qui jouent sur scène, qui dessinent des costumes, bien que Louis XIV ait donc dansé pour la dernière fois à l'âge de 32 ans, estimant qu'il était désormais trop âgé pour monter sur scène. En tout cas, Louis XIV était bien guitariste et aimait beaucoup la musique. Il décide donc d'avoir quotidiennement des messes basses, c'est-à-dire des messes durant lesquelles le prêtre parle à voix basse et récite les différentes parties de la messe, et où des œuvres musicales sont données. Alors plus particulièrement, deux types d'œuvres. Il y a tout d'abord un grand motet. Le grand motet est donné du début de la messe jusqu'à l'élévation. Vous avez ensuite un petit motet qui est donné de l'élévation jusqu'à la fin de la messe. Et ensuite un salvum fac regem qui termine l'office divin quotidien. Pour cela, il faut donc des œuvres, il faut donc des compositeurs, puisque tous les jours, il s'agit d'un nouveau grand motet et d'un nouveau petit motet, c'est vous dire la frénésie de composition qui devait animer nos musiciens versaillais de l'époque. Au sein de la chapelle, avec un grand C, à savoir l'institution musicale s'occupant de la musique sacrée à Versailles, il y avait à la tête un maître de chapelle, au-dessus de lui un grand aumônier de France bien sûr, mais le maître de chapelle était un évêque ou un archevêque qui n'y connaissait strictement rien à la musique, et le véritable directeur de la musique sacrée de Versailles n'était autre que le sous-maître de chapelle. Cette charge s'exerçait par quartier. Tous les trois mois, un autre sous-maître prenait le relais du précédent, ce qui permettait à ces derniers de cumuler les charges. Ils avaient souvent une activité complémentaire à Paris le reste de l'année. Et donc, dans les années 1680-1681, Louis XIV organise le premier grand concours pour recruter quatre sous-maîtres de chapelle. Et parmi eux, Henri Dumont remportera ce concours. Il s'agira d'ailleurs du seul des quatre sous-maîtres de chapelle à être réellement compétent, les jeux d'influence et ayant finalement attiré des gens de plus ou moins médiocres conditions à ses charges. Henri Dumont, pendant plusieurs années, va composer de nombreux motets, petits motets essentiellement, genre qu'il va révolutionner, ainsi que des œuvres d'orgue dont vous avez pu entendre ce prélude, maîtrisant donc tout à fait le style baroque français de cette époque.
Thank you.
était interprété de Johann Sebastian Bach, le concerto en ré mineur, une transcription d'un concerto de Marcello en trois mouvements. Il s'agit ici d'une série de concertos qui ont été transcrits par Bach. Rappelons que notre compositeur, bien qu'étant très casanier, se tenait au courant de la vie musicale européenne. Il a recopié de nombreux recueils. Rappelons d'ailleurs que c'est comme cela, enfin du moins on le sait grâce aux archives d'un de ses enfants, qu'il a appris la musique en chipant les partitions dans le meuble de ses parents et en les lisant au clair de lune. Donc toujours une soif de savoir et une soif de connaissance de ce qu'il se faisait à son époque. C'est ainsi que Johann Sebastian Bach a pu incorporer les différents styles nationaux, si l'on peut dire, pour s'en servir dans ses propres compositions. Nous avons donc ici le style italien, parfaitement maîtrisé par Bach, qui est transcrit pour clavier et pour orgue. L'intérêt de ces concertos, eh bien, est d'être manualitaire, à savoir, nous n'avons pas besoin d'utiliser le pédalier pour jouer de telles œuvres, ce qui permet justement l'interprétation de ces dernières sur des instruments modestes comme celui de Steinbrunn, le Bach, qui ne possède qu'une petite octave de pédale. Cela permet donc de renouveler le répertoire que l'on peut jouer sur ces instruments. Attachons-nous maintenant, pour terminer notre émission consacrée à Matthias Weckmann et l'orgue de Steinbrunn-Le Bas, à découvrir deux autres compositions de l'époque de l'orgue cette fois-ci. Nous allons au 19e siècle et nous nous intéressons à un compositeur russe, Mikhail Glinka. Ce dernier ayant très peu composé, bien évidemment, pour orgue, en fait il a composé en tout et pour tout trois fugues pour piano ou orgue, en fait on ne le sait pas, c'est trois fugues pour clavier, il n'y a rien de bien mentionner, en sachant qu'il s'agit peut-être d'exercices de contrepoint plus qu'autre chose au départ, du moins. Néanmoins, ces trois œuvres sont trois petites fresques symphoniques tout à fait intéressantes, aux couleurs variées, et permettant une nouvelle fois d'interpréter ces dernières sur un instrument possédant un petit pédalier, puisque ces fugues sont strictement manualitaires. Vous entendrez donc, pour terminer cette émission, deux fugues de Mikhail Glinka. Thank you. Vous venez d'entendre deux fugues de Mikhaïl Glinka, compositeur russe du 19e siècle, composant encore de manière très post-classique pour l'époque, œuvre interprétée par Cyril Palot sur l'orgue Antoine Herbuté de Steinbrunn-le-Bas. Il s'agit d'un disque de la collection Orgue d'Alsace, le volume 2 de cette collection, produite par le Festival Kalinowski. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons au terme de notre 31e émission de La Voix des Anges. Je vous souhaite une bonne continuation sur les programmes d'Accent 4.